Émilien Verdon.
Du ski alpin avec la descente masculine de Bormio qui a débuté à 11h30 pour l'heure. Trois Suisses se sont déjà élancés, Jérôme Jeannin.
Absolument, et c'est un Suisse qui est en tête, c'est le jeune Bernois Franjo von Almen, 23 ans, qui était déjà deuxième il y a une semaine à Val Gardena, qui signe le meilleur temps après le passage de 11 concurrents. Justin Murizier, le Valaisan, est troisième, Stéphane Rogentin, septième, et on attend évidemment le passage de Marco Odermatt qui va s'élancer tout à l'heure avec le dossard numéro 15.
Les dames, elles disputent un géant à Semmering en Autriche. Lara Gut-Behrami est bien placée pour jouer la victoire.
Oui, la Tessinoise est deuxième après la première manche, à 15 centièmes seulement de l'Italienne Federica Brignone. Elle aura donc un coup à jouer lors de la seconde manche qui débute tout à l'heure à 13h. Ça s'est moins bien passé pour Camille Rast, la Valaisanne, qui est seulement 15e à 1 seconde 88. Mélanie Meillard a été éliminée.
Merci beaucoup Jérôme Jeannin. Ces deux courses sont à suivre sur RTS2. En Valais, une avalanche a tué un randonneur hier dans la région d'Arola, au glacier de Chelion. L'homme se déplaçait à bonne distance de la personne qui l'accompagnait lorsque le manteau neigeux a cédé. Il a été emporté jusqu'au fond de la pente. Les secours l'ont rapidement localisé sous la neige avant de le transporter à l'hôpital de Sion où il a succombé à ses blessures. Il était âgé de 27 ans. Après un raid israélien, le dernier grand hôpital opérationnel du nord de la bande de Gaza est hors service. Déclaration hier de l'Organisation mondiale de la santé qui précise que 25 patients en état critique se trouvaient dans l'établissement. Elle fait également état de services hospitaliers incendiés. L'armée de Tsahal avait annoncé le même jour avoir lancé une opération contre des combattants du Hamas près de ce bâtiment de soins. Un dernier hommage avec les funérailles de l'ancien premier ministre indien Manmohan Singh, décédé jeudi dernier à l'âge de 92 ans. Il a dirigé le pays de 2004 à 2014 et est connu pour avoir mené des réformes le propulsant au rang de puissance mondiale. Une période de deuil national de 7 jours a été décrétée. Elle durera jusqu'à mercredi inclus. De nouvelles irrégularités dans une récolte de signatures. Elles concernent l'initiative Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical. La chancellerie fédérale l'a découvert, révèle les journaux alémaniques de Tamedia. Plus de 3600 signatures ne sont pas valables. La plupart proviennent de Genève. Une analyse médico-légale a mis en évidence plusieurs inscriptions rédigées par la même main. Une partie des paraphes proviennent d'entreprises de collecte privée. Le comité d'initiative indique coopérer avec les autorités. On prend des nouvelles du ciel sur le plateau. Les bancs de brouillard ne vont pas partir de sitôt. Il faudra se rendre en altitude en dessus de 800 mètres pour voir le soleil dans cette région. Ailleurs, le temps sera partout optimal. Pour les températures, on attend pour cet après-midi au maximum entre 2 et 3 degrés sur le bassin lémanique, jusqu'à 7 en Valais. Demain, on reprend exactement les mêmes et on recommence.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, voyageons au cœur de l'émotion. La musique fait partie de notre vie et en rythme souvent les moments importants. Claire Mudry part à la rencontre de 6 personnalités pour passer en revue les morceaux qui les ont marqués dans leur enfance, leur vie professionnelle ou encore leurs relations. À travers ces notes se dessinent des parcours de vie passionnants. Une vie en musique, c'est les lundis, mercredis et jeudis du 23 décembre au 2 janvier à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Le kiosque à musique. Jean-Marc Richard.
Le plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de ce kiosque à musique, un kiosque à musique qui s'est consacré sur une émission et demie, si j'ose m'exprimer ainsi, aux instruments avant et maintenant, avec nos collègues réalisatrices, c'est-à-dire Géraldine Ulrich, Laurence Boss, que l'on compose, qui compose l'équipe des réalisatrices et réalisateurs avec JP Mage et Yann Juirin. Elles ont choisi pour nous quelques titres qui les ont touchés, qui les ont marqués. Je pense qu'on partage volontiers ces titres, qui pour beaucoup sont aussi liés d'une d'une certaine façon à la formation. Mais on commence avec le Geneva Quatuor, comme son nom l'indique, et qui participait au deuxième congrès des cornistes de Suisse romande, et nous y étions à la salle Ansermet à Genève, c'était le 24 février. Puis on va un petit peu plus loin, le 11 mai, avec le 9e festival des chœurs d'enfants et de jeunes, qui a eu lieu au Conservatoire de musique neuchâtelois. Et là, c'est Scola da Cant su Selva. On retourne dans les grisons avec plaisir, sous la direction de Rilana Carduvi. Mais d'abord, les Quatuors.
Thank you.
rester dans le domaine de la formation avec le groupe de percussion de l'école de musique Multisite de Saint-Pré, plus le groupe des anciens élèves. Et ça, c'est un kiosque à musique que nous vous avons proposé le 3 février de l'année dernière, enfin de cette année, parce qu'on n'est encore pas au bout de l'année, pour le 90e anniversaire de l'Aurore de Saint-Pré à la salle du Vieux Moulin. Et ça sera dirigé par Grégory Wust, le plus jeune musicien à 6 ans. Ça sera suivi par l'ensemble de cordes de l'école de musique du Jura bernois. Un magnifique kiosque à musique le 4 mai du côté de la salle de spectacle Saint-Imier. Là, c'est dirigé par Philippe Crutli. La formation à l'honneur. Comme vous pouvez le constater, il y avait de l'enthousiasme le 4 mai pour le 50e anniversaire de l'école de musique du Jura bernois. Ils font un super boulot du côté de Saint-Imier, c'était à la salle de spectacle. Vous le savez, samedi dernier, je vous ai proposé de gagner un DAB+, une radio DAB+, parce que c'est la dernière émission ce samedi que vous pourrez écouter en FM pour le kiosque à musique. Hein. Il y en a d'autres qu'on peut encore écouter jusqu'au 31, mais pour le kiosque à musique, c'est la dernière émission qu'on peut écouter en FM. Ensuite, ça passe en DAB+. Alors, je vous avais proposé d'en gagner et vous avez été tellement nombreuses et nombreux à nous envoyer un mail, près de 200. J'avais promis que les premiers arrivés seraient servis, mais comme il y en a eu à peu près 80 qui sont arrivés toutes et tous ensemble, on a fait un tirage au sort. Je crois que tout le monde a été avisé, ou les gagnantes, les gagnants, ou ceux qui n'ont pas gagné, mais tous ceux ou toutes celles qui ont participé. Merci infiniment d'y avoir participé ainsi. Ça souligne quand même le fait que peut-être que vous êtes encore assez nombreuses et nombreux à pas avoir de DAB+. Enfin bref, j'espère que ça va bien se passer et qu'on se retrouvera quand même du côté du 4 janvier, si je ne me trompe, prochain rendez-vous du kiosque à musique, donc uniquement en DAB+. Et puis ne ratez pas le 31 donc à 18h, il y aura une émission spéciale de forum, en particulier une partie de l'émission consacrée à la disparition de la FM. Et puis ce soir, sur forum aussi à 18h, un débat autour de l'Eurovision. Et je vous ai mis un lien sur la page Facebook Pop Suisse avec une série que nous avons concocté en compagnie de Nicolas Tanner et Marie Crevoisier autour de l'histoire de l'Eurovision. Voilà, deux pépites et magnifiques découvertes. D'abord, on commence par The Shamrock Shepherd. C'était à la Foire du Valais et c'était le 29 octobre. Et puis, juste après, la Familien Kapelle Mainzer. Vous verrez, c'est absolument magnifique. Un ensemble enregistré à l'Augustiner Kirche de Zurich à l'occasion de la fête fédérale des costumes.
Will you deal with the drunken sailor in the morning? Way up she raises, way up, raises, way up she raises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor.
Incroyable histoire de famille, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Minéa Manzer au Hackbrett. On a compris qu'on était dans les musiques traditionnelles. On va rester dans les musiques traditionnelles, avec un contraste après donc la musique appenzelloise. On a rendez-vous avec la musique traditionnelle romande. Oui, grâce à l'équipe de Nikita Pfister, nous avons pu consacrer un Kioska Musique complet au nouveau recueil de Suisse romande. C'était le 6 juillet. Les nouveaux recueils de Suisse romande, c'est des cahiers qui regroupent des partitions retrouvées ici ou là. Et c'est un absolu trésor. On va écouter un extrait interprété par Folaton. Et puis, on retournera dans la Ländler Musik avec la composition de Marc Chance et l'école de Schwitzoise de Reconvillier. C'était à la Couronne au Grand Chasseral à Sonsbon. Mais d'abord, musique traditionnelle romande. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine avec une matinée consacrée à une carte blanche à Jean-Pierre Chevalier. Et puis, n'oubliez pas que nous serons en direct dès le 11 janvier pour le 8e festival de Riviera Classique au réfectoire des Mousquetaires à la Tour de Paix. Merci beaucoup de nous suivre sur rts.ch/cam et bien évidemment sur la page Facebook Pop Suisse. On va prendre quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lausanne-Martigny, un accident provoque toujours un bouchon entre Chèvre et Montreux en direction de Martigny. Un retard de 30 minutes est à prévoir sur ce tronçon. Et puis une information concernant le ferroutage. On annonce 2 heures d'attente à la gare de chargement de Réalpes sur la ligne de la Fourca. Merci à Laurence Boss pour la préparation de ce kiosque à musique. Et merci à Jonathan Hasselbacher qui en était le diffuseur. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye, vive les musiques populaires.
L'heure avec RTS Première.
L'heure de retrouver le journal de midi et demi, le journal de la mi-journée, présenté par Manuela Salvi. Bonjour.
Bonjour. Du ski à la une de ce journal avec la descente homme à Bormio avec des Suisses qui brillent pour l'instant en doublé première et deuxième place pour deux jeunes talents. Une belle surprise. Et à Semmering en Autriche, Lara Gut-Berami a franchi la ligne d'arrivée à la deuxième place de la première manche du Super G. À Gaza, la situation sanitaire se dégrade encore. Un raid israélien visait le dernier hôpital encore au service du nord du territoire. L'armée israélienne ciblait des positions du Hamas à proximité. Le Hamas qui affirme qu'Israël détient le directeur de l'hôpital. Le Magic Pass culturel pour soutenir la culture. Fribourg renonce à imiter le Valais. C'est une fausse bonne idée, estime la conseillère d'État en charge de la culture. Reproduire gratuitement la danse de Matisse ou l'autoportrait aux épines de Frida Kahlo, c'est possible depuis le 1er janvier. 70 ans après leur mort, des œuvres dans le domaine public, une inspiration pour les artistes contemporains et de l'art qui embellit notre quotidien, nous dira la Darmstädter. Elle est directrice de l'AED, la Haute École d'Art et de Design à Genève. New York adopte une nouvelle loi sur le climat qui pollue, paye, avec à la clé une amende salée pour les compagnies pétrolières, 75 milliards de dollars. Une sanction que les producteurs contestent. Sans dormir avec difficulté, des nuits en pointillés à regarder le plafond, une personne sur trois souffre de troubles du sommeil en Suisse. Comment se réconcilier avec Morphée, c'est la question du point J. La météo, du brouillard parfois givrant sur le plateau du soleil au-dessus de 800 mètres. Vous avez le programme, bienvenue. Et les jeunes Suisses s'illustrent donc en ski alpin chez les hommes. On attendait Marco Odermatt, mais c'est un autre Suisse qui est en train de remporter la descente de Bormio en roman. Le fribourgeois Alexis Monet, Jérôme Jeannin, il est en train de créer l'exploit.
On assistait à un véritable coup de théâtre il y a quelques minutes. On semblait se diriger vers la victoire d'un autre Suisse, hein, Franjo von Almen, jeune Bernois de 23 ans, quand soudain Alexis Monet lui a volé la vedette. Le fribourgeois de 24 ans est en train de s'imposer avec 24 centièmes d'avance. C'est un exploit pour lui, dont le meilleur résultat jusqu'ici était une 8e place à Kitzbühel il y a une année. C'est un doublé, Manuela, vous l'avez dit, puisque derrière lui on trouve donc le jeune Bernois Franjo von Almen. Marco de Odermatt s'est fait une belle frayeur, il a failli tomber. Il termine tout de même 5e, Murizier est 6e. C'est le classement après le passage de 24 concurrents.
Mais il y a encore effectivement des concurrents dans la course. Vous nous donnerez le résultat final d'ici 13h, Jérôme Branche-Jeannin. Les dames disputent en géant à Semmering en Autriche. Et là, Lara Gut-Berami bien placée pour jouer la victoire.
Oui, la Tessinoise est 2e après la première manche, à 15 centièmes seulement de l'Italienne Federica Brignone. Elle aura donc un coup à jouer lors de la seconde manche qui débute tout à l'heure à 13h. Ça s'est moins bien passé pour la Valaisanne Camiraste qui pointe à la 15e place à 1,88 seconde.
Et cette seconde manche est à suivre dès 13h sur RTS2 et on attend effectivement la confirmation de cette victoire du fribourgeois Alexis Monet à la descente de Bormio. Merci Jérôme Jeannin. C'était le dernier hôpital en service dans le nord de Gaza. Un raid israélien a détruit et incendié ce matin des services clés de ce centre de santé. Des membres du personnel soignant et des patients sont dans un état critique. Et l'OMS, c'est ce que pointe effectivement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, son directeur aurait été arrêté. Israël visait des positions du Hamas à proximité. La suite, c'est Salem Betsaba qui la raconte.
Dans le communiqué du ministère de la Santé dirigé par le Hamas, on peut lire que les forces d'occupation ont emmené des dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adwan dans un centre de détention pour interrogatoire, y compris le directeur Hossam Abu Safieh. Plus tôt, l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies avait annoncé que l'hôpital avait été fermé suite à des frappes de Tsahal qui auraient détruit une partie de l'établissement. L'hôpital qui, selon l'OMS, était le dernier encore en activité dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne, de son côté, reconnaît avoir mené cette nuit une nouvelle opération contre le Hamas dans la même région, au nord de Gaza, suite, je cite, à des informations sur la présence de terroristes et d'infrastructures terroristes. Avant que les troupes n'entrent dans la zone, les avions de combat et les forces d'artillerie israéliennes ont mené de nombreuses frappes ciblant, dit Tsahal, des groupes d'agents du Hamas et des sites utilisés par le groupe terroriste. Betsabé Salem pour RTS Info, Tel Aviv.
Troisième vendredi, jour de prière depuis la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Troisième vendredi de manifestation à Damas. Des rassemblements avaient lieu un peu partout dans la capitale syrienne pour demander justice pour les disparus, pour les victimes du régime. Mais sur la place des Omeyyades, la manifestation la plus importante, c'était plutôt un message d'unité du pays. Reportage à Damas de notre envoyé spécial, Martin Dumas Primbaud.
Silencieuse, les yeux rougis par l'émotion, Abir brandit haut le portrait d'un homme.
C'est mon oncle, Kenan Saadeddine.
Lui et son fils ont été emprisonnés par le régime de Bachar al-Assad. C'était il y a plus de 10 ans.
Ils ont disparu en 2011 et désormais des preuves attestent de leur mort.
Comme la centaine de manifestants avec laquelle elle fait groupe devant l'ancien bâtiment de la gare de Damas ce vendredi 27 novembre, Abir demande justice.
Il faut que justice soit faite. Il faut des procès pour apaiser la haine et la vengeance dans le cœur des gens.
Sur l'immense place des Omeyyades, de l'autre côté de la capitale, le message envoyé par les manifestants est limpide. 1-1-1, le peuple syrien ne fait qu'un. Cette semaine, des membres de la minorité alaouite ont défilé dans les rues de plusieurs villes du pays, car beaucoup craignent d'être associés à l'ancien régime et ainsi marginalisés dans cette nouvelle Syrie.
Minorité ou majorité, je rejette toute forme de racisme ou de sectarisme. Il faut que la Syrie reste unie, elle appartient à tout le monde, pas à une communauté ou un clan particulier. La Syrie appartient à son peuple.
Venu manifester avec sa poussette, Bosseïna plaide même pour la réconciliation avec les partisans de l'ancien régime.
J'espère qu'ils parviendront à un accord de réconciliation avec le nouveau pouvoir. Mais s'ils refusent, alors il est préférable qu'ils quittent le pays.
Mercredi, un affrontement entre des milices pro-Assad et les nouvelles forces de sécurité avait fait 17 morts dans l'ouest du pays. Martin Dumas Primbaud, RTS, Damas.
Une loi sur le climat qui fustige les producteurs de pétrole, ça se passe à New York. Une loi adoptée le 26 décembre avec des premiers effets concrets. Une amende salée pour les compagnies pétrolières, 75 milliards de dollars. Une sanction à verser sur 25 ans pour compenser, Katia Scher, les dommages sur le climat.
Le principe est relativement simple, celui qui pollue doit payer. Et ce principe, la gouverneure de l'État de New York, Katie Hochul, en a fait une loi cette fin de semaine. Pour elle, comme pour les adhérents à ce principe, les contribuables n'ont pas à faire les frais de changement ou de catastrophes climatiques dont d'autres sont responsables, comprenez les producteurs d'énergie fossile.
Est-ce que l'État de New York est précurseur dans cette démarche aux États-Unis ?
Eh bien, il sera utilisé pour contrer les effets du réchauffement climatique. Concrètement, il doit servir à reconstruire les infrastructures, les routes, les bâtiments, les ponts abîmés par les tempêtes et les événements extrêmes et à protéger les structures existantes comme le port de New York par exemple. La gouverneure de New York estime que l'année dernière seulement, les dégâts climatiques se sont chiffrés à 2,7 milliards de dollars, un montant dont doivent encore s'acquitter les contribuables. En fait, cette loi new-yorkaise s'inspire d'une législation déjà existante existante qui contraint les entités responsables d'un déversement toxique à prendre en charge le coût du nettoyage de la surface contaminée.
Et voilà à quoi doit servir ces 75 milliards de dollars, cette amende colossale. Mais on reprend la question, est-ce que l'État de New York est précurseur dans cette démarche aux États-Unis ?
Non, l'État du Vermont a passé une loi semblable en mai dernier. La Californie et le Maryland veulent faire de même. Mais que ce soit dans le Vermont ou dans l'État de New York, on peut s'attendre à ce que les producteurs d'énergie fossile contestent la légitimité de cette loi, qu'ils dénoncent d'ores et déjà comme une sanction rétroactive et injustifiable.
En bref, en Corée et en France, le procès historique des viols de Mazan, une quinzaine d'accusés font appel du verdict prononcé par la cour criminelle d'Avignon. On ignore si Dominique Pellicot, le mari de Gisèle Pellicot, drogué et violé, en fait partie. Il reste 2 jours aux accusés, ils étaient 51 pour interjeter appel. Un nouveau procès devrait donc avoir lieu dans l'année, mais devant un jury populaire. Et les grands aéroports britanniques sont en difficulté. Le brouillard affecte décollage et atterrissage, retarde ou annule des vols. Gatwick au nord de Londres. Londres et Manchester sont les plus perturbés. Le Magic Pass culturel Fribourg renonce. Le Valais l'a introduit il y a 2 ans et ça marche. L'idée est bonne, mais pour les autorités fribourgeoises, le concept ne convient pas à la réalité culturelle du canton. Mehdi Piquant.
Aller au théâtre, au cinéma ou voir un concert avec un seul et même laissez-passer, c'est possible maintenant depuis plus de 2 ans en Valais. La Bobo, c'est son nom, a été lancé au sortir de la pandémie de Covid pour soutenir le monde de la culture. Aujourd'hui, cet abonnement inspiré du Magic Pass en ski fait son chemin en Valais. Il donne accès à plus de 50 lieux culturels pour un prix évolutif entre 365 et 730 francs par année. De quoi donner des idées au canton de Fribourg, qui y a songé aussi, mais qui a finalement décidé de reculer. Sylvie Bonvin-Sansonnance, conseillère d'État en charge de la culture.
C'est une fausse bonne idée parce qu'on s'est aperçu qu'il toucherait d'abord les personnes qui sont déjà des consommateurs culturels et qui ont déjà les moyens de s'acheter des billets au prix normal. Et puis, ça serait une charge financière nouvelle pour les salles et les partenaires culturels qui devraient assumer évidemment une part du bas prix de ces abonnements.
Directrice de Culture Valais et de La Bobo, Sarah Missong-Gros regrette, elle, de ne pas avoir pu convaincre le canton de Fribourg.
Je le regrette parce que je trouve que c'est une dynamique extrêmement intéressante. On note par exemple que l'AG culturel, qui est le pendant de la Bobo, mais pour les jeunes de moins de 26 ans, est dans une dynamique extrêmement positive. Et évidemment qu'on aurait souhaité aussi que la Bobo puisse faire des petits ailleurs et puis intéresser d'autres cantons.
Pas de Magic Pass culturel à Fribourg, mais le Conseil d'État assure travailler sur un autre projet de soutien pour les acteurs culturels du canton.
Et le canton d'Oury veut renaturer le lac avec des matériaux d'excavation du deuxième tube du tunnel routier du Gothard. Problème, ces roches déjà déversées dans le lac des 4 cantons contiennent de l'arsenic, révélation de la SRF, la chaîne publique alémanique, il y a une dizaine de jours. C'est donc au Tessin que ces déblais seront entreposés. Une décision, Camille de Gotte, qui inquiète sous la coupole fédérale.
L'idée de base était d'utiliser ces débris provenant des travaux pour un projet de renaturalisation du lac du côté du canton d'Oury. Alors qu'une partie est déjà immergée, une concentration élevée d'arsenic est découverte. Les autorités uranaises précisent que l'arsenic serait naturellement présent dans la roche, mais elles décident quand même de tirer la prise du projet. Changement de programme donc, les déblais pollués vont être utilisés pour le terrassement d'un parc dans le village d'Airolo, avec l'accord des autorités tessinoises, selon l'Office fédéral des routes. Une décision qui choque la conseillère nationale verte Greta Gysin, qui vient de ce canton. Elle demande au Conseil fédéral de tirer la situation au clair.
Ce qui me surprend, c'est le fait que l'on ait trouvé si rapidement une nouvelle solution alternative pour la mise en décharge de ce matériau, sans vraiment l'avoir analysé en profondeur. Il y a une très forte concentration d'arsenic dans ces roches et on doit l'analyser de manière approfondie. Il faut que l'on sache si cela va avoir un impact sur l'environnement, sur la nappe phréatique, sur les gens qui iront dans ce parc. Le Conseil fédéral doit amener de la transparence et mettre en lumière comment les choses se sont déroulées jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, s'assurer que cette étude d'impact sur l'environnement soit réalisée et que le canton du Tessin et la commune d'Airolo puissent avoir le dernier mot pour décider si ces déblais peuvent vraiment être déposés à cet endroit ou non.
De son côté, l'Office fédéral des routes estime qu'il n'y a aucun risque lié à une contamination des roches à l'arsenic, ni pour l'humain, ni pour l'environnement.
Bonjour, la dame Schetter.
Bonjour.
Vous dirigez l'AED, la Haute École d'Art à Lausanne. Matisse, le peintre français aux couleurs audacieuses, l'artiste mexicaine Frida Kahlo ou encore l'écrivaine française Colette, leur point commun, c'est qu'ils sont morts il y a 70 ans et leurs œuvres, dès le 1er janvier, pourront être reproduites librement, sans droit d'auteur à leurs héritiers. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'art.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, je voulais juste dire que c'est Haute École d'Art et Design à Genève et pas à Lausanne. Voilà, c'est juste une petite correction. Mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est finalement, ça permettra d'accéder aux images davantage aux amateurs d'art, aux artistes, chercheurs, même si cette tendance d'accès libre aux images est déjà là, est déjà présent. Les plus grands musées du monde, notamment Rijksmuseum en Amsterdam, parmi les premiers, il y a 10 ans, il a donné accès libre à tout le monde, y compris pour l'usage commercial, à toutes leurs collections. Online, Metropolitan Museum suivi, il y a plein des musées, surtout anglo-saxons, qui suivent, aussi maintenant en France, et c'est vrai que cette intérêt pour donner l'accès libre à l'image, ça s'associe souvent à sorte de démocratisation de la culture.
Mais c'est aussi possible pour des artistes de réinterpréter librement des œuvres de Matisse. C'est une source d'inspiration pour les artistes, très rapidement, parce qu'on est un peu en retard.
Oui, absolument. C'est effectivement, pour les artistes, c'est très, très utile, parce qu'on sait qu'on vit depuis longtemps dans l'époque de postmodernisme, et l'inspiration des œuvres d'art anciens, des autres œuvres d'art, est vraiment la base de travail pour les artistes, en tout cas les artistes qui débutent, qui cherchent leur style, et c'est souvent très, très important. On voit que cet accès, il est extrêmement important pour et les artistes et les chercheurs. Et c'est vraiment chaque fois quand les grands artistes ou l'œuvre de grands artistes tombe dans le domaine public, c'est une très bonne nouvelle.
Nouvelle donc pour les amateurs d'art et les musées participent de cette tendance démocratisation de l'art. Merci infiniment, Lada Mouchteter, directrice de l'AED à Genève, avec mes excuses. Et Matisse en vrai, on peut l'admirer en ce moment à la Fondation Bayolère à Bâle jusqu'au 26 janvier. Et le point J, c'est votre rendez-vous du samedi dans ce 12-30, le point J qui s'intéresse à votre sommeil.
Bonjour. Je peux vous poser une question pour le point J?
Ouais.
Est-ce que vous arrivez à vous endormir facilement le soir?
Non, c'est horrible, vraiment. En plus, ça fait, 2-3 semaines. Là, vraiment, je dors hyper mal.
Et vous, est-ce que c'est facile pour vous de vous endormir? Si c'est pas le cas, vous êtes comme une personne sur trois en Suisse. C'est les chiffres de l'Office fédéral de la statistique qui ont été publiés début du mois. Les troubles du sommeil sont hyper répandus, tellement que pour ce sujet, je suis simplement allée dans la rue demander aux gens de me raconter leur expérience. Vous les entendrez tout au long de l'épisode. Les troubles du sommeil, tellement courants et pourtant, ils constituent un problème de santé publique majeur. Parce que mal s'endormir, c'est se réveiller moins en forme, moins concentré, plus stressé. Et dans les cas où ça dure, c'est un facteur de risque pour des maladies psychiques comme la dépression, les troubles anxieux ou le burn-out. Alors dans cet épisode, on va chercher des solutions pour faire la paix avec son sommeil et trouver comment mieux s'endormir.
Le point J.
On parle de difficulté d'endormissement quand la personne a l'impression qu'il lui faut plus de 30 minutes pour s'endormir. Et donc là, on parlera d'une insomnie chronique d'endormissement si elle dure plus de 3 mois et au moins 3 nuits par semaine. Si on a des difficultés d'endormissement, une nuit par semaine, on ne va pas considérer qu'il s'agit d'un trouble au sens d'une maladie.
Tiphaine Raffray est psychiatre, psychothérapeute et co-directrice du Centre du Sommeil de Florimont à Lausanne. Et moi, c'est Joëlle Cachin, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais je suis de retour au point J pour quelques semaines. Tiphaine Raffray, vous traitez des centaines et des centaines de patientes et patients chaque année pour des troubles du sommeil. Dans votre expérience, qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine à s'endormir ?
Alors, les causes peuvent être multiples, hein. Elles sont souvent en lien avec le mode de vie et l'environnement, et notamment de plus en plus fréquemment en lien avec l'utilisation des écrans le soir. En effet, la lumière bleue, des écrans va avoir un effet stimulant et va retarder la production de l'hormone qui nous permet de dormir, qui est la mélatonine. Les autres causes peuvent être aussi en lien avec les horaires de sommeil. Parfois, on va avoir tendance à se coucher plus tôt que l'heure à laquelle notre horloge interne nous donne le signal de sommeil. Et puis, évidemment, les préoccupations, le stress, l'anxiété qui peuvent faire que quand on va se coucher tout d'un coup, on se met à penser à plein de choses, on rumine et le sommeil s'échappe.
Est-ce que de connaître l'élément déclencheur, s'il y en a un, ça aide à ensuite régler ces troubles du sommeil ?
Pas forcément. Quand il s'agit d'insomnie chronique, le facteur déclencheur peut être survenu parfois des années en arrière et dans la majorité des cas résolu, ou bien ça peut être un changement de vie auquel on s'est tout à fait adapté. Dans ces cas-là, finalement, ça ne va pas avoir d'impact sur la façon dont on va gérer le trouble du sommeil. Si le facteur déclencheur, c'est un changement des habitudes, et justement, par exemple, tout d'un coup, on s'est mis le soir à systématiquement regarder des séries sur un ordinateur portable, et bien là, évidemment, on peut changer le facteur déclencheur.
Je suis fâchée depuis très très longtemps avec le sommeil du soir. Je respecte pas mon besoin de sommeil.
Ça se transcrit comment dans le quotidien? Qu'est-ce que vous faites au moment où vous devriez aller dormir?
Alors je lis, c'est mon meilleur somnifère, mais à chaque fois que je vais me coucher, et ça fait 53 ans que ça dure, je me dis pourquoi t'es pas venue 2 heures avant.
Ces personnes, par quoi elles peuvent commencer pour améliorer leur situation, peut-être avant même de consulter?
Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire quand on n'est pas satisfait finalement de la qualité de son sommeil ou qu'on a du mal à s'endormir. C'est déjà de regarder un petit peu l'environnement de sommeil dans lequel on dort et les habitudes de sommeil que l'on a. L'environnement de sommeil, ça va être l'exposition au bruit. Alors parfois on habite dans un logement qui est bruyant, c'est difficile de changer ça, mais une des stratégies, ça peut être, si on les supporte, de porter des bouchons d'oreilles par exemple, parce que le bruit va vraiment perturber le sommeil. L'exposition à la lumière, alors on parlait des écrans, mais ça va être aussi la lumière environnante. C'est important de dormir dans une chambre bien obscure. La température de la chambre à coucher, alors on recommande une chambre à coucher de 18 degrés environ, donc plutôt fraîche, puisque pour s'endormir, on a besoin de baisser la température de notre corps. Après, le confort, hein, si on n'est pas bien dans sa chambre, qu'on trouve que le lit n'est pas confortable, qu'on n'est pas à l'aise, ça ne veut pas dire forcément de changer la literie, mais de peut-être réorganiser la chambre, changer un peu la décoration, se sentir à l'aise dans notre environnement de sommeil. Après, regardez aussi quelles sont les activités que l'on a dans l'heure ou les 2 heures avant d'aller au lit. Si on utilise des écrans, plutôt éviter. Alors la télé, on n'a pas de données qui indiquent que l'écran de la télévision aurait un impact négatif sur le sommeil. En revanche, le natel, les tablettes, les ordinateurs, puisqu'on les utilise beaucoup plus près des yeux avec une lumière intense, ont un impact négatif. Favoriser donc plutôt des activités qui ne sont pas sur écran, plutôt relaxantes, qui vont nous permettre de nous détendre avant d'aller au lit. La lecture, évidemment, par exemple. Et puis, regardez aussi les consommations d'excitants. Tout le monde sait que le café va être un excitant, un éveillant. Donc si on a un mauvais sommeil, limiter les prises de café, de thé aussi, en deuxième partie de journée, surtout après 15-16 heures.
Et vous, alors
en fait, c'est tout l'opposé.
Alors racontez-moi, est-ce que vous avez de la facilité à vous endormir?
Alors moi, vraiment pas du tout. Et je sais que je sais à quoi c'est dû. Je pense que c'est vraiment des journées mauvaises habitudes et beaucoup de café et de boissons énergisantes. En fait, je m'endors dans mon téléphone. Et du coup, en fait, c'est juste je me laisse pas penser. Du coup, genre, je stimule mon attention jusqu'à que je m'endorme. Mais non, moi, je m'endors pas bien du tout. Enfin, en fait, sans mon téléphone, c'est pas possible.
Mais c'est marrant parce que du coup, vous dites, vous savez, en fait, le café, ça aide pas, les écrans, ça aide pas, mais vous le faites quand même. Pourquoi?
En fait, je pense que c'est des choses qui sont quand même hyper ancrées. Et où en fait c'est aussi lié à une forme de réconfort. Le téléphone, c'est vraiment lié un peu à quelque chose pour calmer entre guillemets mon esprit, même si c'est illogique parce que c'est de la lumière du téléphone et tout, et les informations, ça réveille, mais c'est associé à du calme dans ma tête.
S'endormir avec son smartphone, c'est loin d'être une rareté. Il y a tout juste 2 semaines, IKEA a publié une enquête sur le sommeil. On y lit que 60% des gens interrogés s'endorment avec leur téléphone à portée de main. C'est même 80% chez les jeunes. Alors qu'on sait très bien que c'est pas une bonne idée. Comment est-ce que la psychiatre et médecin du sommeil, Tiphaine Raffray, explique ça?
C'est une question effectivement compliquée. Je pense qu'il y a plein de mécanismes. On est tous très informés et on n'arrive pas. C'est comme parfois, on sait qu'il ne faut pas fumer et il y a des gens qui fument. Je pense qu'il y a un côté quand même très addictif à ces écrans, au contenu. Notre smartphone remplit tellement de fonctions, à la fois de contacts sociaux, de sources d'informations, donc de liens avec les autres. C'est aussi le réveil matin. C'est extrêmement compliqué et je pense qu'on en a tous l'expérience de s'empêcher de le regarder. Donc, dans un monde idéal, il faudrait essayer de ne pas le mettre dans la chambre à coucher puisque c'est tellement tentant quand il est sur la table de chevet de l'attraper et de jeter un petit coup d'œil ou le mettre à l'autre bout de la chambre pour pas qu'il soit à portée de main. Mais effectivement, c'est ce que l'on observe et c'est ce que nous disent les gens et on sait à quel point c'est difficile.
Bonjour! Est-ce que c'est facile pour vous de vous endormir le soir?
En général, oui. Vous voulez que j'élabore un peu?
Peut-être dites-moi votre secret alors.
Je lis avant de m'endormir, on a nos petits rituels, prendre une douche, pas d'email, pas d'iPad, enfin pas de communication, et puis lire un livre ou regarder une série télé, et puis après au lit quoi.
Vous faites quoi dans ces cas-là quand vous n'arrivez pas à vous endormir?
Quand je n'arrive pas, je sors de lit et après je retourne. C'est une bonne technique.
Pour les personnes qui ont amélioré leur hygiène de sommeil mais qui ont quand même de la peine à s'endormir, qu'est-ce que vous pouvez prescrire ?
Alors nous, on prescrit des thérapies qui ne sont pas médicamenteuses. En première intention, on n'utilise pas les médicaments ni les substances à base de plantes dans les problèmes d'endormissement. Ce sont vraiment des techniques très comportementales où on va vraiment travailler sur les habitudes. Et donc la première chose, et ce que vous pouvez déjà essayer à la maison, c'est de se dire, si je suis dans mon lit, je n'arrive pas à m'endormir, mais j'ai meilleur temps de me lever. Puisque ça n'est pas en restant au lit, en essayant de mettre en place des stratégies pour s'endormir, que ça va marcher. L'endormissement, c'est un phénomène qui n'est pas volontaire. On ne va pas décider de s'endormir. On n'a pas une technique qui va forcer l'endormissement. C'est tout l'inverse. C'est vraiment du lâcher prise. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, par contre, on peut maîtriser de sortir du lit si on n'arrive pas à dormir. Donc si vous êtes en train de ruminer dans votre lit ou vous sentez que le sommeil ne vient pas, ou vous commencez à, entre guillemets, à faire la crêpe, à tourner dans votre lit, levez-vous, allez faire autre chose, une activité plutôt plaisante, puis retournez vous coucher plus tard. Soit quand vous sentez à nouveau une sensation de somnolence, donc c'est une sorte de porte d'entrée dans le sommeil, ou c'est un train de sommeil qui est en train de passer, ou bien parfois on n'arrive pas à ressentir ça. Quand vous vous sentez apaisé, quand vous avez envie de faire un deuxième essai, que vous en avez assez d'être en train de lire par exemple, retournez vous coucher, refaites un essai. C'est une technique que dans notre jargon on appelle la technique du contrôle du stimulus, et ça marche très bien. En général, après quelques nuits à faire comme ça, 2-3 allers-retours entre la chambre et idéalement le salon, le problème est réglé. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut se coucher au bon moment, quand notre corps est prêt à dormir, et la probabilité d'endormissement, les chances que l'on a de s'endormir, ne sont pas les mêmes à n'importe quel moment de la soirée. Des moments où un train arrive, et là, on a une facilité d'endormissement. Et puis ensuite, le train est passé, on va devoir attendre le suivant. En revanche, le matin, c'est très important de se réveiller tous les jours à la même heure, d'avoir le moins de variations possibles. Plus on va avoir un rythme, plus les fonctions de notre corps vont être harmonieuses, et notamment la régulation du sommeil.
Le dimanche soir, il y a un petit peu la tête qui tourne sur la semaine qui vient, les échéances, les dossiers au bureau.
Et quand vous n'arrivez pas à vous endormir, ça prend combien de temps ?
Entre 30 minutes et 2 heures, selon le nombre de dossiers qui trottent dans la tête.
Et qu'est-ce que vous faites du coup dans ces moments-là ?
Soit j'essaye vraiment de me dire, je mets ces pensées dans une boîte que je range de manière figurative dans une étagère que je reprendrai en arrivant au bureau. Puis dans les cas les plus désespérés, il m'est arrivé de compter les moutons, vraiment très comme quand on est enfant. Et ça marche.
Alors c'est beaucoup lié au tracas de la journée. C'est vrai que quand on dort, c'est le seul moment qu'on peut réfléchir, je dirais. Donc du coup, beaucoup de ressassement et ouais.
Mais vous avez un exemple, vous mettez combien de temps pour vous endormir ?
Je dirais entre une demi-heure et une heure.
Et pour bien dormir, alors c'est quoi votre secret ?
Ah, rester tranquille.
Pas de stress.
Ouais, j'ai trop de stress, mais il faut trouver le bon moment pour rester tranquille.
Le stress peut provoquer des difficultés à s'endormir. Est-ce qu'il faut régler ces problèmes pour arriver à s'endormir ?
Idéalement, oui. Parfois, c'est pas simple, ça peut prendre du temps ou ça n'est pas forcément possible. C'est pas pour autant que le problème d'endormissement est une fatalité. Quand on a une insomnie et un autre problème de santé, par exemple un trouble anxieux, on recommande de traiter les deux. si on ne peut pas traiter l'anxiété, déjà, on peut faire il y a des stratégies qu'on peut mettre en place qui peuvent améliorer l'endormissement, comme justement aller se coucher un peu plus tard, se relever si on n'arrive pas à s'endormir, et puis mettre en place un rituel avant l'endormissement qui va être vraiment une transition entre la journée et la nuit, la période de sommeil, puisque c'est une illusion que de se dire « je fais plein de choses la journée, hop, je me couche et je m'endors directement », comme s'il n'y avait pas de transition. Il y a forcément un moment de transition, et justement, c'est aussi dans cette période de transition que notre corps va comprendre que c'est bientôt l'heure d'aller au lit, qu'il va se préparer, commencer à se mettre en mode sommeil progressivement, et c'est aussi une période au cours de laquelle tout le stress peut être un petit peu évacué. Et finalement, la nuit et l'endormissement, c'est la continuité de notre journée. Si la journée, on est soumis à beaucoup de pression, beaucoup de stresseurs, etc., et qu'on n'a aucun moment pour les évacuer, ça va, entre guillemets, s'évacuer dans le sommeil ou plus exactement dans les réveils, dans les plages d'endormissement. Donc, toujours se poser la question dans la journée, est-ce qu'il y a des petits moments, pas forcément des longs moments, ça peut être un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, où je peux faire des exercices de respiration, des exercices de relaxation, aller faire un tour, des petits moments comme ça de ressourcement pour baisser un peu le niveau de stress qui s'accumule. On peut imaginer comme ça qu'on a un réservoir ou une éponge qui se remplit, puis on va de temps en temps la presser pour éviter que ça déborde en pleine nuit.
Merci beaucoup Tiffaine Raffray pour tous ces bons conseils et merci à vous, chers inconnus, qui êtes passés par hasard près de Grancy à Lausanne et avez livré un petit bout de votre histoire de sommeil. Quant à moi, je vais essayer de brancher mon smartphone hors de ma chambre et je vous dis à très vite.
Et c'est de joie que déborde l'équipe suisse de ski. Le doublé suisse se confirme à Bormio avec la première victoire en Coupe du Monde du jeune fribourgeois Alexis Monet, 24 ans, devant un autre Suisse, le Bernois Fragno von Almen. Donc descente de Bormio, Marco Odermatt est cinquième. Plus de détails dans le bulletin de 13h. La météo. Avec du soleil au-dessus de 800 mètres sur le plateau du Brouillard et du Stratus, peu de chances qu'il se dissipe cet après-midi. Température 4 degrés à Moutier, 3 à Lausanne et Genève, 6 à Sion. Demain, pas de changement. Du brouillard parfois givrant sur le plateau et en Ajoie. Il faudra grimper au-dessus de 700 mètres pour trouver du soleil. Température 0 sous le Stratus. Maximum 4 degrés au soleil. Mais c'est la fin de ce journal avec la complicité technique de Nathan Vissa et Igor Imo. Vous avez raté le début, vous pouvez vous brancher sur Espace 2, la suite sur la première. C'est Ego System, 13h sur RTS Première. Bel après-midi.